peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet. Alors Jean-Yves Bonnet ne peut pas être là aujourd'hui, mais il sera là évidemment la semaine prochaine. Donc une émission proposée par Jean-Yves Bonnet et Michel Clément tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Et vous avez bien raison. Alors pour commencer, on va prendre le cheval au mot, et aujourd'hui le mot picotin. Alors dans le roman de Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse, l'auteur nous décrit le marquis de Bruyères qui, après une partie de chasse, entre se restaurer dans une auberge des Landes. Alors il commande la soupe à mes chiens, un picotin d'avoine à mon cheval, un morceau de pain et de jambon pour moi, un rogaton quelconque à mon piqueur. Bon. Alors l'origine du mot picotin, qui apparaît au XIIIe siècle du reste, reste malgré tout obscure. Alors si certains linguistes y voient un rapport avec les verbes picorer, piquer, d'autres évoquent le mot du latin médiéval picotus, toujours utilisé au XIIIe siècle en franco-provençal pour désigner une petite unité de mesure de grain, mais également de liquide d'une contenance d'à peu près un quart de litre. De fait, cette quantité de grains correspondait grosso modo à celle qu'un paysan pouvait tenir dans la paume de sa main quand il semait à la volée, et par analogie, la superficie de terre sur laquelle pouvait être semé un picotin de céréales. On parle alors d'un picotin de terre. Ainsi, par exemple à Ginestas, à Mayac, à Saint-Vallière, comme dans bien d'autres villages du Languedoc, des contrats agricoles datés du début du XVIIe siècle mentionnent des plantiers de la contenance d'un certain nombre de picotins situés hors des murs des bourgs. Et pour en revenir aux picotins, fameux picotin comme unité de mesure des céréales, on a retrouvé un accord conclu en 1565 entre un habitant du village de Pouzol dans le Minervois et le porcher communal, accord qui stipule que le propriétaire du pourceau devra fournir chaque jour à celui qui le garde 8 picotins de son de blé et 3 picotins d'orge afin d'assurer un bon engraissement de l'animal. Ce qui nous amène à conclure avec force que si les picotins quotidiens de grains sont bons pour le cheval ou le cochon, pour le cavalier, en revanche, ces mêmes picotins, mais cette fois de vin, sont d'un usage, on va dire, malsain. Alors, le sujet d'aujourd'hui. De tous les peuples nomades qui ont participé à ce que l'histoire nomme les grandes invasions, il en est un qui a laissé un souvenir effroyable en Europe occidentale dans la première partie du 5e siècle. Ce souvenir, c'est le souvenir des Huns. De 406 à 453, soit pendant 47 ans, leurs hordes vont déferler sur la Gaule, le royaume des Burgondes en Allemagne occidentale, l'Italie du Nord, les Balkans, ils pillent l'Empire romain d'Orient et menacent Byzance. Alors, unifiés par Attila, ils fondent un empire qui s'étend du cours supérieur du Danube jusqu'au Dniepr, vous savez, le Dniepr, ce grand fleuve qui prend sa source en Russie, traverse l'Ukraine pour se jeter dans la mer Noire après un cours de près de 2300 km. Je crois que c'est le troisième fleuve après le Don et la Volga, quelque chose comme cela. Alors c'est un vaste empire, mais un empire éphémère, puisqu'il durera un peu moins d'un siècle, en fait 83 ans exactement. Alors les Huns sont un peuple nomade d'origine turco-mongole. Au 1er siècle de notre ère, on les trouve établis entre le sud du Kazakhstan, de la mer d'Aral, de l'Ouzbékistan, et peut-être même, selon certains historiens, alors c'est encore toujours un petit peu discuté, originaires d'une partie également des monts du Caucase. Les raisons qui ont poussé à entreprendre ces vastes chevauchées vers l'ouest restent mystérieuses. Alors là, les historiens ne savent pas trop. Ont-ils été chassés par d'autres peuples, ou est-ce le manque de pâturage qui les a poussés à se déplacer dans des régions plus propices à l'élevage de leurs troupeaux de moutons, de vaches et de chevaux? Là, le mystère reste entier. Une légende raconte qu'à l'origine, les Huns étaient établis sur la rive orientale du détroit de Kertch, qui sépare la mer d'Azov de la mer Noire. Alors, il est dit qu'une des vaches des Huns, piquée par un thon, aurait traversé à la nage ce détroit pour se réfugier sur la rive occidentale du détroit. Entre parenthèses, la vache était une sacrée nageuse. Enfin bon. Alors, poursuivi par son propriétaire Hun, ce dernier découvre une région riche en pâturage. Sa vache récupérée, parce qu'il la récupère, il s'empresse de retourner auprès des siens et décrit les richesses de ce nouveau pays qu'il a entrevu. La Horde aurait alors décidé d'aller prendre possession de ce pays de Cocagne. L'histoire est belle, évidemment. Plus sérieusement, à l'inverse des Arabes avec leur administration élaborée, des Vikings et leurs sagas, bien que les sagas attribuées aux Vikings, en fait, ont été écrites par des clercs après les Vikings. Mais enfin, bon, on va parler quand même des sagas des Vikings, qui comptent leurs hauts faits guerriers, ou même celles des Mongols 8 siècles plus tard, les Huns n'ont laissé aucune trace écrite. Ce que l'histoire a retenu d'eux nous est connu grâce aux chroniques des historiens de l'époque, comme Priscus ou Olympiodore. Le nomade a toujours suscité chez le citadin un mélange de fascination et de répulsion. Le Hun ne fait pas exception à cette règle. On le décrit comme un peuple innombrable, cruel et sauvage, un effroyable grouillement d'hommes et d'animaux, des cavaliers rapides, insaisissables, avides d'or et de massacres, en fait de vrais démons. Mais écoutons le récit d'un ermite qui vivait près de Jérusalem quand les Huns menèrent un raid en Palestine et en Syrie. Alors, cet ermite dit « Soudain, des messagers se mirent à arriver à toute hâte et l'Orient tout entier trembla car des nuées de Huns avaient franchi le Caucase et déferlaient. Ils emplissaient la terre entière de meurtres et d'épouvantes, voltigeant en tout lieu sur leurs chevaux rapides. Ils étaient partout avant même qu'on s'y attendît. Par leur vitesse, ils devançaient la rumeur et n'avaient en miséricorde ni la religion, ni le rang, ni le vieillard, ni l'enfant vachissant. » Bon, ils tuaient tout le monde, donc. L'ermite termine en disant « On racontait partout qu'ils étaient en route pour Jérusalem et que tous convergeaient vers cette ville, attirés par leur extrême avidité pour l'or. » Mais accordons-nous maintenant une pause musicale avec « My Generation » de Who.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
Take my generation. Take my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. Just talking about my generation. What we all
say.
I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. Things they do look awful cold.
I'm
about to die before I get old.
Yeah.
des êtres démoniaques, assurément les uns le sont selon les chroniqueurs de l'époque. C'est surtout leur laideur qui frappe les témoins, comme l'historien militaire romain Ammien Marcellin, qui a vécu à la fin du IVe siècle, le constate. Alors pour lui, alors on va écouter Marcellin, Ammien Marcellin, pour lui, ils sont si laids qu'on pourrait les confondre avec des animaux à deux pattes ou avec ces silhouettes grossièrement taillées comme on en voit au parapet des ponts. Et pour un second témoin d'époque, qui s'appelle Jordanes, c'est leur aspect terrifiant qui inspirait l'épouvante à cause de leur peau burinée et leur tête, si l'on peut dire, qui ressemblait davantage à une sorte de moignon informe. Bon, alors il est vrai, et cela a dû impressionner effectivement les témoins de l'époque, le crâne des femmes, un, était déformé vers l'arrière au moyen de bandages. Et cette coutume de la déformation des crânes était également pratiquée en Chine, à certaines périodes en Égypte, mais également dans la civilisation Inca. Mais pour les Romains, cette pratique était tout à fait nouvelle, tout à fait inconnue. Donc ça les a frappés, bien sûr. Si le physique des uns impressionne les Romains, leur habillement les déconcerte également. Ils sont vêtus, alors les uns, de fourrures souvent usées d'une saleté repoussante, car, dit-on, une de leurs habitudes est de ne jamais se laver. Pour les uns, en effet, la toilette à grande eau enlèverait la force du corps, entre parenthèses, une théorie partagée pendant longtemps par les chevaliers occidentaux médiévaux. Enfin, eux aussi n'aimaient pas trop se laver. Enfin, les Romains découvrent avec les uns une autre façon que la leur de s'aguerrir et de faire la guerre. Les enfants, filles et garçons, sont mis à cheval dès leur naissance, fixés par des liens sur la poitrine de leur mère. À ce sujet, le Gaulois Sidoine Apollinaire, qui les connaît, raconte: l'enfant sait à peine se tenir debout sans l'aide de sa mère que déjà un cheval l'emporte sur son dos. On croirait que les membres de l'homme et du cheval sont nés ensemble, tant le cavalier est étroitement lié à sa monture. Et il rajoute, absolument admiratif, si d'autres se déplacent à cheval, les uns, eux, y vivent. À la différence des Mongols, les uns n'utilisent pas de chariot. Tout se fait donc à dos de cheval. Comme pour l'ensemble des peuples nomades des steppes, un lien très fort existe entre le cheval et son cavalier. Le même Ammien Marcellin, qu'on a écouté tout à l'heure, remarque leur virtuosité de cavalier. Donc, alors il dit, ils sont collés à leurs chevaux qui sont téméraires, il est vrai, mais affreux. Et parfois, ils montent à la manière des femmes pour vaquer aux tâches ordinaires. Donc sans doute en Amazone, assis sur le côté. Et lorsqu'ils sont appelés à délibérer de questions importantes, ils se rassemblent tous à cheval. Enfin et surtout, ce sont leurs techniques de combat qui déconcertent et effraient les Romains. Alors là, effectivement, un officier raconte à ce propos vers 392, lorsqu'on les provoque, ils se battent parfois en combat singulier, mais ils entrent dans la bataille en formation, tandis que la clameur assourdissante de leur vocifération produit un vacarme sauvage. Comme si les autres ne vociféraient pas en face, mais enfin, donc, on voit bien comment ce peuple étonne et stupéfait d'une certaine façon ces braves Romains. Et alors, il continue, et comme ils sont équipés légèrement pour des manœuvres rapides et imprévisibles, ils se dispersent brusquement à dessein par petits groupes et passent à l'attaque, se ruant dans le désordre et causant un massacre effroyable. Et parce qu'ils se déplacent avec une extraordinaire rapidité, il est difficile de les repérer lorsqu'ils franchissent un rempart ou pillent un camp ennemi. On peut, sans hésitation, les considérer comme les plus redoutables de tous les guerriers. Alors au début, les uns combattent à distance, au moyen de flèches, munies d'une pointe d'os acérée, qui est du reste très très subtilement liée à la hampe de la flèche. Effectivement, ce ne sont pas des pointes en métal ou en bronze, ce sont des pointes en os. Ils se servent pour ça du fameux petit arc mongol, asiatique, c'est-à-dire de l'arc court, à double courbure, et qui est fabriqué avec de la cornes et du bois. Donc petit arc extrêmement efficace qui peut être encore mortel à 150 ou 200 mètres. Enfin, c'est vraiment une arme redoutable. Et alors, là aussi, ils ont l'habitude de monter debout sur les étriers, donc ce qui leur permet effectivement de pouvoir se tourner de tous les côtés pour viser, se servir de leur arc. Et c'est une technique du reste que les Cosaques ont repris ensuite, quand on sait que pas mal de Cosaques, en fait, ces fameux Cosaques rustes, c'était des gens qui venaient d'Ouzbékistan, qui venaient en fait d'Asie centrale, voire même d'Asie un petit peu orientale. Alors donc, ces Huns chargent au galop et engagent le corps à corps à l'épée sans souci de préserver leur vie. Donc ils y vont carrément. Puis, tandis que leurs adversaires cherchent à se protéger des blessures causées par leurs épées, ils les capturent. Alors ça, c'est marrant. Ils les capturent au moyen de lasso, alors que les Romains décrivent, parce qu'ils connaissaient pas les lasso, évidemment, alors ils parlent de bandes d'étoffe terminées par un nœud coulant. Donc on comprend bien, ce sont des lasso. Et donc, ils les capturent au moyen de lasso pour les immobiliser en leur ligotant les membres. Et ensuite, ils les tuent. Ils en font prisonniers certains, mais surtout, ils les tuent. Alors, on le voit, encore une fois, la technique guerrière des nomades des steppes d'Asie n'est ni plus ni moins la même que celle utilisée lors des grandes expéditions de chasse. Et ça, on l'avait vu avec les Mongols, c'est-à-dire que la technique de la guerre est absolument calquée sur les techniques de grande chasse qui, effectivement, était là pour faire un stock de viande pour l'hiver, donc l'hiver qui était assez long, et qui pouvait durer 2 mois, voire 3 mois. C'était vraiment des grandes chasses, où effectivement, on encerclait le gibier, des fois sur des distances de 200-250 km, donc un immense rond. Et puis ensuite, on refermait le rond petit à petit en poussant les animaux comme cela, jusqu'au moment où véritablement les animaux étaient encerclés de façon très serrée. Et alors là, la tuerie commençait. Alors, la semaine prochaine, le messager du cheval évoquera celui qui fut sans doute le chef Hun le plus célèbre, celui qu'on a tous en mémoire, évidemment. Et du reste, on s'apercevra que c'était pas un sauvage, bien au contraire. C'était un homme qui connaissait le grec, qui avait dans son palais en bois de Hongrie des philosophes, des clercs, des religieux qui venaient le voir, avec qui il parlait de théologie, donc de philosophie, d'art militaire, de mathématiques, et vous l'avez tous reconnu, bien sûr, ce chef de guerre très célèbre, c'est le fameux Attila. Alors, à lire et à voir pour en savoir plus, « Les guerres nomades » de Hugh Kennedy aux éditions Autrement. Et ce livre est disponible à la médiathèque de Rodez. Alors, le dicton de la semaine, « Un bon pensage vaut un picotin d'avoine ». Alors, Jean-Yves nous expliquerait volontiers ce que ça veut dire. Eh ben, je vais un petit peu parler pour lui. C'est en fait qu'un cheval, c'est quelque chose de total. C'est-à-dire, ça n'est pas simplement de le monter, c'est aussi de s'en occuper. Et de s'en occuper, c'est bien le nourrir. Donc, s'en occuper, c'est avant de le monter, il faut le nettoyer, hein, et même pas simplement avant de le monter. Il faut s'occuper de son cheval, de le nettoyer, faire le pansage, curer les pieds, etc. Ça, les cavaliers et les cavaliers le savent. Et puis, il faut bien le nourrir. Et effectivement, un cheval bien nourri est un cheval qui est heureux, qui est satisfait, qui a la pêche. Et donc, un bon pansage vaut un picotin d'avoine. Alors, c'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mardi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui, non pour s'en servir, mais pour le servir. Alors, n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez, 107.9, et de CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique, ça sont les élections législatives qui me montent à la tête, pas la République, la rubrique Le Messager du Cheval. Merci de nous rester fidèles, à la semaine prochaine et un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.
Les chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Non, 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 non
toi et souris. Ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Que tu as perdu, sur un toit tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Sur la route du ciel, d'aiguement. En passant par sa nièce, du langue d'Otorouergue, après la mer, les salins, les marées, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Mione, les Bézous, sa nièce, milieu du sel, patrie de Béranger de l'Andorre, capitale du Roer de Rhodes. Entrez dans la légende de la route du sel. Entrez dans la légende de la route du sel.